Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi cette émission Éclairage qui porte sur le thème « Peut-on concevoir une sagesse pour notre temps ?» Ce thème reprend le titre d'un colloque organisé sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques par la Fondation OSTAD ELAI, Éthique et Solidarité humaine, pour la 10e journée de la solidarité humaine que cette fondation organise le 10 septembre 2011. Le titre exact d'ailleurs, c'est « Quelle sagesse pour notre temps ?». Alors pour vous présenter cette journée, qui n'est pas tout à fait comme les autres, et le colloque de cette fondation OSTAD ELAI, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord M. Bernard Bourgeois, philosophe de l'Académie. Bonjour M. Bourgeois, soyez le bienvenu.
Merci.
Vous êtes de l'Académie des sciences morales et politiques et membre du conseil d'administration de cette fondation. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Marc Pievic. Vous êtes délégué général de cette fondation OSTAD ELAI.
Bonjour également.
Bonjour à vous deux. Soyez les bienvenus. Si vous le permettez, Monsieur Bourgeois, avant d'en venir avec vous au cœur du sujet, sagesse pour notre temps, si on peut, on va essayer. Je voudrais demander à Marc Pievic de nous présenter rapidement cette fondation et peut-être l'esprit qui l'anime et ses objectifs.
Oui, tout à fait. Donc la fondation OSTAD ELAI, Éthique et Solidarité humaine, c'est une fondation française qui a été créée et reconnue d'utilité publique en l'an 2000. Elle a été fondée par son actuel président, qui est l'un des enfants d'OSTAD ELAI, qui est un professeur émérite d'anatomie et de chirurgie infantile. Et elle est co-administrée par notamment deux institutions, qui sont le Conseil de l'Europe et l'Université de Paris implantée en Sorbonne, Conseil de l'Europe représenté par son ancien directeur général des droits de l'homme, M. Pierre-Henri Imbert, et l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, par Bernard Bourgeois, ici présent et qu'on ne présente pas. Alors ces activités l'ont conduite également à obtenir, il y a 3 ans maintenant, un statut consultatif au niveau du Conseil économique et social des Nations Unies. Donc voilà, je dirais pour la dimension un peu statutaire, sa vocation, en quelques mots, quelle est la vocation de cette fondation ? Eh bien c'est de favoriser un rapprochement réel entre les hommes en s'attachant à ce qui, sans doute, je me place sous le regard de Bernard Bourgeois, mais à ce qui sans doute constitue la racine de toute solidarité, à savoir le sentiment éthique qui est présent finalement en tout un chacun. Et plus particulièrement pour la Fondation, la clé de ce rapprochement réel, la clé de cette solidarité, se trouve plus particulièrement dans le développement de, on pourrait appeler ça la pratique individuelle de l'éthique, revue, je dirais, dans notre modernité, et puis également dans une meilleure connaissance de ce qui construit, de ce qui participe à la construction de l'humanité en l'homme, notamment, et ça c'est peut-être une originalité en France, je dirais, notamment à travers les principes universels qui régissent la dimension spirituelle de l'homme.
Donc c'est important, en effet. Pourquoi cette fondation organise-t-elle une journée de la solidarité qui n'est pas la journée de la solidarité ni organisée par le gouvernement français, ni même celle qui est d'ailleurs proposée au niveau international, fondée par Lech Walesa. Donc c'est une journée de la solidarité spécifique à la fondation.
Oui, tout à fait. Vous savez, je crois que tout ce qui aujourd'hui va dans le sens de la réponse à un besoin de la solidarité est de toute façon extrêmement important. Et je pense que ces 3 journées d'ailleurs ont des vocations tout à fait certes différentes, mais complémentaires. Vous savez que la Journée internationale de la solidarité, qui donc a été promulguée par les Nations Unies en 2005, elle vise à souligner en quelque sorte l'importance justement de la solidarité dans le cadre de la progression de l'ordre du jour des Nations Unies, avec notamment l'objectif plus particulier de lutter contre la pauvreté. Bon, je ne parle pas de la journée organisée par le gouvernement, maintenant Journée de solidarité en 2008, mais nous, notre Journée de la solidarité humaine a été créée antérieurement, en 2000, en fait, pour commémorer l'anniversaire de ces événements dramatiques du 11 septembre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre journée se place toujours autour dans un week-end autour du 11 septembre, commémorer donc ce moment dramatique, mais en prenant peut-être le contre-pied justement des analyses très dramatiques qui en ont été faites en ce qui concerne les possibles relations entre les peuples, entre les cultures et les individus. Donc l'idée de ce contre-pied, c'est de se dire, mais est-ce que ce n'est pas justement l'occasion d'une prise de conscience pour réfléchir à ce qui participe justement au rapprochement entre les hommes et à des valeurs qui puissent être partagées.
Bernard Bourgeois, on le sait, vous comptez parmi les meilleurs spécialistes, tout particulièrement de la philosophie allemande. On vous doit de nombreux ouvrages, notamment sur Hegel et Fichte. Vous avez été élu le 2 décembre 2002 dans la section philosophie, on s'en étonnera pas, au fauteuil laissé vacant par le décès d'Olivier Lacombe. Vous êtes à la fois agrégé de philosophie, docteur ès lettres. Vous avez commencé votre carrière universitaire par enseigner à la faculté des lettres de Lyon. Et d'ailleurs, vous avez été le doyen de cette faculté de philosophie, je crois. Pour la terminer, mais votre carrière est-elle jamais terminée? Je ne crois pas. Par l'université Panthéon-Sorbonne, dont vous êtes depuis 2009 professeur émérite. Alors, pardonnez-moi de résumer votre carrière aussi
depuis
brièvement.
1999.
1999, voilà. Vous avez assumé et vous assumez encore de nombreuses responsabilités au sein d'institutions vénérables, dont la Société française de philosophie, dont vous avez été le président.
Écoutez, j'ai été président effectivement pendant 20 ans, mais je ne le suis plus, je me suis libéré de cette responsabilité il y a 2 ans, et j'ai simplement dû, pour une période, j'espère, limitée, accepter d'assumer il y a 1 an, et encore une fois pour une période limitée, le secrétariat général de l'Institut international de philosophie, institution française créée en 1937, dont l'infrastructure est restée française, le secrétariat, et le secrétaire général est français. Je souhaite, comme beaucoup, que cette institution reste implantée en France, et c'est pourquoi j'ai cru devoir accepter, pour une courte période, d'assumer son secrétariat général.
Alors, vous assistez aussi au conseil d'administration de la Fondation Eustache Delahaye, puisque vous êtes membre de
Bien
ce
sûr.
Conseil.
Oui.
Alors, c'est à ce titre que vous allez présider ce colloque du 10 septembre 2011 qui portera sur le thème de la sagesse. Alors, ma première question, Bernard Bourgeois, serait de vous demander qu'est-ce que la sagesse et comment la philosophie aborde-t-elle ce thème de la sagesse? C'est une vaste question, mais je suis sûr que vous allez nous la résumer.
Je n'en sais rien. En tout cas, je vais essayer de dire quelques mots pour signaler d'abord que la sagesse et en premier lieu le mot de sagesse ont une histoire. La sagesse est souvent considérée comme une manifestation privilégié de l'Antiquité. Le terme a été encore employé, la chose était également présente, je crois d'une façon assez courante, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, la référence n'est plus constituée par un groupe de sages, mais par ce qu'on a appelé les philosophes des Lumières. Et depuis cette période, effectivement, il y a comme une sorte de reflux de la sagesse et de l'usage du mot. Par contre, si on délaisse la diachronie pour envisager la synchronie, il semble que la sagesse soit une manifestation humaine assez générale, assez répandue et dans laquelle différents courants se rattachent par des liens assez forts. J'évoquerai essentiellement la sagesse dans la tradition de la culture occidentale, mais entre les sages de l'Occident, les sages grecs et les sages, par exemple, de l'Asie, les sages de l'hindouisme, il y a moins de distance et de différence, voire d'opposition, qu'entre, puisque j'évoquais la chose tout à l'heure, qu'entre les philosophies. Les sages paraissent pouvoir se réconcilier plus aisément que les philosophes. La philosophie, c'est un discours. Elle a un contenu positif précis. Et ce contenu est inséré toujours dans un contexte local et dans un contexte historique. Voilà pourquoi les philosophies sont très diverses. Les philosophies s'opposent parce qu'elles sont liées à leur lieu et à leur temps. Elles sont donc immergées dans les vicissitudes géographiques et historiques. Ce qui semble indiquer que si la sagesse échappe à ce statut de la philosophie, la sagesse qui apparaît comme une forme, comme une démarche, comme une attitude qui peut être remplie différemment, alors que la philosophie possède nécessairement un contenu, c'est un discours déterminé, et la détermination est toujours riche d'opposition. Ça signifie que la sagesse, par rapport à la philosophie, a une distance plus grande à l'égard des particularisations historiques et que son rapport au lieu et au temps n'est donc pas un rapport positif comme celui de la philosophie et de son lieu et de son temps, mais un rapport essentiellement négatif. Comme si la sagesse, et c'est pourquoi elle a, semble-t-il, une vocation plus grande à l'universalisation et à l'unification, comme si la sagesse était essentiellement une attitude de retrait ou de retraite par rapport au milieu dans lequel vit le sage. Vous me direz que mon propos semble démenti immédiatement, si on se réfère à la tradition occidentale, par le fait que ce qu'on a appelé les sages et les sept sages en Grèce ont été des hommes politiques. Solon, etc., Cléobule, Bias...
Mais pas des tyrans, quand même.
Des tyrans, mais...
On les appelait tyrans.
Les sept sages. Tyrans parce qu'ils avaient des responsabilités politiques et qu'ils ont marqué la vie politique par des décisions qui ont été considérables. Il suffit d'évoquer Solon, Thalès et d'autres. Donc, dimension pratique qui a toujours été reconnue à la sagesse, alors que la philosophie semble d'abord reposer sur une théorie, la pratique n'étant qu'une application, la dimension pratique qui a toujours été reconnue à la sagesse semble d'abord avoir été une dimension pratique, non pas de retrait, mais d'engagement.
Dans la cité.
Dans la cité et dans les problèmes qui se posent à la cité. Mais je ferai remarquer, car il faut bien que je défende ma thèse, je ferai remarquer que ces sages, les sept sages, se sont employés essentiellement à pacifier et à réconcilier la vie entre les hommes, soit entre les cités, soit à l'intérieur des cités. Ils ont organisé, ils ont constitué les cités dont ils avaient la charge. Bref, un travail qui a été un travail d'unification, de réconciliation, voire d'universalisation, et non pas le travail qui vient souvent, si j'ose employer ce mot de travail, l'action qui vient souvent au premier plan dans l'histoire, à savoir le conflit, les guerres, les rivalités entre les États, les rivalités dans les États, la guerre, les batailles, les grands événements qui peuplent l'histoire. Par conséquent, il semble bien que même s'il s'agit dans les sept sages d'hommes ayant eu une pratique engagée, politique, à l'intérieur de cette pratique, on peut dire qu'ils ont eu une certaine attitude de désengagement par rapport aux tendances ou à la tendance qui est celle de la vie politique et qui fait que souvent ceux dont on retient les noms dans la vie politique, ce sont les grands chefs de guerre, ce sont les grands responsables politico-militaires. Par conséquent, on peut dire que la sagesse, comme pratique réconciliatrice, comme pratique unificatrice, implique toujours plus ou moins une certaine retraite par rapport au milieu dans lequel vit le sage, un milieu qui est souvent marqué par précisément la négativité des conflits entre les hommes et des combats. Eh bien, cette dimension de retraite a été accentuée dans l'évolution de la civilisation, en particulier en Occident, et c'est ainsi qu'on a vu apparaître des sages en tant qu'hommes qui pouvaient n'être pas chargés de responsabilités politiques, qui illustraient une prise de distance vis-à-vis du temps et de ses tensions et de sa négativité. Ce sont les sages qui ont illustré l'épicurisme, le stoïcisme, et qui tous ont pratiqué une certaine retenue, une certaine abstention un certain retrait de la vie pour essayer de bien maîtriser leur destin propre, leur destin individuel, et ainsi s'assurer une existence pacifiée en modérant leurs élans, leurs entraînements. C'est la figure traditionnelle du sage. Donc, une figure qui est marquée par le souci de soi, en tant que le soi veut être maître de lui, en se retirant dans la mesure du possible, en se retirant des choses, pour être maître de sa propre vie, de ses désirs, de ses passions, de ses craintes. Bref, la sagesse comme étant essentiellement marquée donc par cette négativité.
Et vous ne faites pas allusion là à un comportement religieux ?
J'ai évité de poser immédiatement ce problème, puisque, bien sûr, la dimension d'affirmation de soi par le retrait des choses, des situations qui sont toujours particulières, ce qui fait que cette affirmation de soi est en même temps par... cette relativisation du milieu particulier, une affirmation de l'universel. Cette double affirmation du soi et de l'universel, de ce qu'il y a de plus personnel, et ce qu'il y a de plus universel par une maîtrise assez forte des engagements qui toujours particularisent et qui opposent, cette dimension générale de la sagesse est une dimension que l'on ne retrouve pas nécessairement dans les religions. Dans la mesure où un certain nombre de religions ne permettent ni une libération de l'individu, il faut s'inscrire dans certaines pratiques, dans certaines mœurs, il faut respecter les commandements de certaines églises, et par ailleurs, les religions sont souvent marquées, sinon par un localisme, du moins par un particularisme. Et c'est ainsi que les religions peuvent être amenées à s'opposer. Il y a des religions universalistes, elles sont datées historiquement, mais même à l'intérieur de ces religions, l'affirmation personnaliste absolue et l'affirmation universaliste absolue ne sont pas toujours nécessairement garanties. D'où les conflits qui ont marqué l'histoire de l'humanité entre la figure du sage et la figure du religieux ou du saint. C'est un très gros problème que celui de la relation entre la sagesse et la religion. Je sais que ce problème sera évoqué dans le colloque,
oui.
Mais je ne voulais pas, pour m'en tenir à des généralités, et il y a déjà suffisamment de problèmes, vous allez le voir, à ce niveau, je ne voulais pas immédiatement évoquer ce problème qui a été... Bien sûr, un problème très marquant. Non, ce que je voulais dire, c'est que cette caractérisation de la sagesse me semble être telle que notre époque, car j'imagine que vous allez m'amener, puisque c'est le thème général du colloque.
J'allais presque y aller, oui, en effet.
Vous allez m'amener sur ce second volet, et si vous m'y amenez, mais je vais vous laisser m'y amener, je vais introduire le deuxième propos que je voulais suggérer, après avoir caractérisé très largement et trop largement sans doute la sagesse dans les quelques remarques que je viens de faire.
Effectivement, vous avez parlé de l'Antiquité, des sages de l'Antiquité. Aujourd'hui, est-il possible d'avoir des sages ? Bénéficions-nous de sages autour de nous ? Un philosophe peut-il être un sage ? Donc aujourd'hui, qu'en est-il ? Car c'est bien le sujet du colloque.
C'est bien le sujet du colloque et c'est un sujet important. Et c'est pourquoi il faudra, j'espère, qu'il soit maintenu au centre, même si le problème sagesse et religion est un problème important. Pourquoi ? Parce que notre époque me semble offrir un milieu très peu favorable à l'existence d'une sagesse telle que je l'ai caractérisée par ses traits négatifs relativement au milieu dans lequel vit celui qui veut être un sage. J'évoquerai deux traits majeurs de notre époque, de notre temps, qui me semblent nuire. Ne pas favoriser du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, la pratique de la sagesse.
Alors, quels sont ces traits majeurs ?
La sagesse est donc une affirmation pratique de soi en même temps que de l'universel. Mmh. Il n'est pas besoin d'insister sur le cosmopolitisme qui a marqué, par exemple, la sagesse stoïcienne. Donc, affirmation de soi, mais en même temps affirmation de l'universel. Pour lui-même, cet attachement à l'universel libérant des engagements concrets de la vie réelle qui sont toujours des engagements qui particularisent par la situation, par la profession, par les choix, les vocations. Deuxième trait de la sagesse, une pratique donc qui est tout entière ordonnée à l'affirmation de la liberté, à l'affirmation de la maîtrise de soi, à l'affirmation du pouvoir de l'intériorité qui constitue le soi, parce que le soi, l'expression même, le mot est un réfléchi, c'est un pronom réfléchi, c'est-à-dire le soi, c'est celui qui a rapport à lui-même, qui est face à lui-même, mais à l'intérieur de lui-même, qui dialogue avec lui-même, qui réfléchit sur lui-même, bref, qui vit dans l'intériorité. Or, notre époque, pas plus qu'elle ne favorise une affirmation de l'universalisme, ne favorise une affirmation de l'intériorité. Et j'évoque rapidement, si vous voulez, ces deux traits négatifs par rapport à une pratique de la sagesse telle que nous l'avons rapidement caractérisée. Il y a bien une universalisation accélérée du monde, la mondialisation qui n'en parle pas. Le destin de chaque homme est lié de plus en plus au destin de tous les hommes. La vie personnelle est de plus en plus insérée dans une vie universelle. Mais je fais remarquer que cet attachement à l'universel est imposé par l'affirmation de la particularité, par l'attachement à la particularité ou par la spécialisation de l'existence. De plus en plus, les hommes se spécialisent. Le développement de l'économie, le développement de la culture, etc., sont marqués par une spécialisation de plus en plus grande des hommes. Pour pouvoir gagner sa vie, il faut se spécialiser. Spécialisation dans le domaine de l'économie, les différents lieux, les différents pays ne produisent pas n'importe quoi, mais chacun est assigné à produire ce qu'il peut produire de la meilleure façon, c'est-à-dire la plus économique, et c'est ainsi qu'il y a une division de la production, une division du travail productif, et qui va toujours en s'accroissant. C'est donc parce que l'homme est spécialisé, parce qu'il est engagé dans une particularisation, qu'il affirme l'universel. Si chacun d'entre nous produisait tout ce dont il a besoin, il n'a pas besoin des autres. Vous voyez, une existence universelle est une existence qui peut être solitaire. Si les gens sont pris dans la mondialisation, c'est parce que la spécialisation poussée exige en retour le recours aux autres. Ce qui fait que l'universalisation n'est pas voulue pour elle-même, mais elle est en quelque sorte imposée comme un destin. Voyez, la mondialisation telle qu'elle est maintenant vécue est vécue par une masse de gens et une masse de plus en plus importante, on le voit dans la crise, non pas comme une vocation, mais comme un destin.
On ne peut pas y échapper.
Comme une fatalité, comme quelque chose qui est imposé et non pas comme un projet auquel on adhérait. Il est imposé à travers le commerce. Et le commerce se caractérise par des échanges. Mais le commerce et les échanges, si intensifie les relations entre les hommes et donc semble tout indiquer pour pouvoir les ouvrir à une vie plus universelle, le font en enfermant et en confirmant les hommes chacun dans ce qu'il est, dans sa spécialisation. Et puis vous le savez, on échange ce qu'on a, mais jamais ce que l'on est. Par conséquent, les échanges, le commerce, bien loin d'être la constitution d'une communauté, si on ne veut pas parler de communion entre les hommes, les maintiennent dans l'extériorité les uns par rapport aux autres.
Donc on n'est pas du tout dans une démarche d'intériorité.
On n'est pas du tout dans une démarche d'universalisation.
Ni même d'universalisation.
D'universalisation. Mais c'est la particularité. Le sage affirme l'universel pour se libérer des engagements particuliers. Ici, ce sont les engagements particuliers qui imposent l'universalisation. Deuxième aspect qui est lié, vous avez raison, je les distingue, mais c'est une abstraction. L'intériorité. L'intériorité que le sage cultive dans son souci d'être maître de lui-même. D'être par lui-même, si je puis dire, dans la pratique de sa vie autosuffisant, d'être responsable de lui, d'être autonome, responsable de lui déjà en lui-même par rapport à ses penchants, ses désirs, à ses objectifs, etc. Cette intériorité, elle est de plus en plus difficile à développer et à cultiver à notre époque. Le souci de soi, par lequel on peut en un sens définir la sagesse, le souci de soi est un souci qui, à notre époque, fait que le soi est toujours éloigné de plus en plus de lui-même. C'est-à-dire que son rapport à soi est par la civilisation, par une civilisation qui est marquée par le développement de la technoscience, le soi est toujours mis à distance de plus en plus de lui-même. Non seulement les gens ont besoin d'une médication extérieure, d'une médication psychologique extérieure, ils ont besoin du psychanalyste, ils ont besoin du psychologue. Les relations humaines qui conditionnent la relation à soi sont, comme cette relation à soi, de plus en plus médiatisées par des tiers.
Des intermédiaires, oui.
Et j'irai plus loin. Le soi, dans son rapport à lui-même, dans lequel il s'est forcé de s'unifier, enfin d'avoir la vie la mieux maîtrisée, il est mis en rapport avec lui-même, non seulement par les autres, le soi, mais par les choses. Et par une chose qui s'est de plus en plus apparemment intériorisée, vous voyez tout de suite que je veux parler, par exemple, de l'ordinateur. L'ordinateur, l'intelligence artificielle, maîtrise de plus en plus la vie, non seulement de l'intelligence naturelle, mais de tout l'esprit naturel. Les gens ont rapport à eux-mêmes avec l'extériorité qui, bien sûr, singe et mime l'intériorité, mais enfin, un ordinateur, même le plus puissant du monde, n'est encore pas doté de la spontanéité ou de l'agilité qui définit le moindre esprit. Par conséquent, notre époque, je crois, sur ce point aussi, rend la sagesse d'autant plus difficile. Donc, je résume, une affirmation d'universalité qui est en quelque sorte contredite en elle-même parce que son moteur, c'est l'attachement forcé à la particularité. Et deuxièmement, un retrait ou une mise à distance de l'extériorité par le souci et la culture de l'intériorité qui est minée en elle-même parce que c'est l'extériorité qui s'est insérée dans l'intériorité et qui l'a fait éclater en voulant la maîtriser avec elle-même. Regardez, si vous voulez, ce destin auquel sont voués les jeunes enfants que l'on met à l'ordinateur. Tout de suite, un président de la République,
il y a quelques décennies,
avait dit que l'idéal, c'était qu'il y ait un ordinateur devant tout enfant. Je crois d'ailleurs plutôt que ça signifiait qu'il fallait qu'il y ait un enfant devant tout ordinateur. Ces jeunes enfants risquent d'être de plus en plus écartelés en eux-mêmes par ce produit de la civilisation. Donc, la sagesse me semble de plus en plus difficile à notre époque.
Eh bien, donc, je ne vous poserai pas ma dernière question, puisque j'allais vous demander si vous répondez une sagesse pour notre époque, oui ou non.
Oui, ben,
j'ai l'impression que vous penchez vers le non.
Ah, ben,
ou en
non.
tout cas vers le difficile.
Non, elle est difficile et si j'avais
pas
le temps,
impossible.
Mais je pense qu'on en parlera.
Avec une prise de conscience,
oui,
on
oui,
peut non, peut-être rectifier les
je
choses.
Je pense qu'il en sera question dans le colloque. Je pourrais dire aussi, et je devrais dire, que la sagesse qui semble de plus en plus difficile est cependant de plus en plus nécessaire
oui.
et que l'époque elle-même, pour continuer à assumer cette activité dont j'ai montré le caractère extrêmement dangereux quant à la culture de la sagesse et de la vie personnelle, notre époque, même pour continuer d'assumer ce qui lui réussit si bien, à savoir cette mondialisation portée par la technoscience, notre époque ne pourra continuer d'assumer ce qui la détourne de la sagesse que si, en même temps, elle revient à une certaine sagesse, à une sagesse qu'il faudrait pratiquer dans des conditions qui sont nouvelles, et dans un style qui doit donc être changé et qui consisterait pour les hommes à être maîtres d'eux-mêmes et à être de véritables soi sans se détourner de cette aliénation dans l'extériorité qui définit la mondialisation, sans fuir celle-ci parce qu'elle existe et que c'est pas en la fuyant qu'on va la surmonter, mais en l'affrontant et en s'y engageant, en s'efforçant de la maîtriser, d'abord en prenant des distances dans la pratique d'elle-même, de telle sorte que l'homme serait chez soi, c'est-à-dire libre. Là, il faut l'être surtout, c'est-à-dire dans un milieu qui est de plus en plus étranger. Par conséquent, oui, il faut élaborer une sagesse pour notre temps, et cette
vaste
sagesse,
programme.
C'est un, comme vous le dites, c'est un très vaste programme. Donc la sagesse peut être impossible, et cependant absolument nécessaire.
Vous venez, Bernard Bourgeois, de faire le portrait d'Ostad Elahi. Vous vouliez me demander, je crois, d'ailleurs, un petit peu d'en parler de lui, mais ce que vous avez défini là, vous le connaissez d'ailleurs très bien, c'est exactement, je dirais, le projet qu'avait Ostad Elahi.
Qui était un Perse, n'est-ce pas ?
Qui était un Perse, c'est un homme qui a traversé le siècle passé. Il est né en 1895, il est décédé en 1974. Il a toujours vécu dans cette Perse qui est devenue l'Iran, vous le savez, en 1935. C'est vraiment une personnalité assez inclassable, je dirais, qui a développé de hautes qualifications dans des domaines très différents. En quelques mots, il a eu une carrière de magistrat entre les années 30 et 60, à une période où l'Iran était en pleine transformation, je dirais, de sa vie politique et sociale. Et notamment, il a fait partie de ces premiers magistrats qui ont mis en place le système judiciaire, un système judiciaire nouveau, voulu par le gouvernement alors, sur, je dirais, le modèle européen, et notamment belge et français. Et donc, il a passé sa vie dans les différentes provinces de l'Iran pour, je dirais, installer cette nouvelle vision judiciaire qui était là aussi pour un peu faire opposition, je dirais, au système qui existait jusque-là, qui était dominé par les religieux. Donc, une carrière de magistrat. Mais ce n'est pas ce qu'il caractérise le plus. Je crois que ce qu'il caractérise le plus, c'est dans l'axe de ce que vient de définir Bernard Bourgeois, c'est que c'était un penseur, et je crois qu'on peut dire que c'était un sage contemporain, puisqu'il répond, je crois, assez vivement aux caractéristiques que vous venez de décrire, Bernard Bourgeois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a porté une réflexion sur la nature de l'homme, sur son origine, sur sa destination, sur ses droits et devoirs, dans une perspective de perfectionnement éthique et spirituel. Et il a eu une vie qui est allée justement à l'inverse de ce qu'on fait beaucoup de personnes qui recherchent cette sagesse, qui sont d'abord dans la société, qui vivent dans la société, et puis qui s'en détachent parce que cette société est trop rude à vivre. Il a eu une enfance baignée dans une éducation traditionnelle, on pourrait même dire spirituelle et même mystique. Il a été éduqué à travers ascèse, jeûne, contemplation, enfin tout ce qu'on l'on sait, de la tradition spirituelle qui est à peu près commune à toutes les grandes traditions. Et puis il s'en est détaché justement comprenant les limites de cette façon de vivre pour entrer en plein cœur de la société. Donc on peut imaginer la difficulté que ça pouvait justement représenter, entrer en plein cœur de la société, avoir cette carrière de magistrat et mettre au sein de la société, je dirais, en pratique, ces principes éthiques et spirituels. C'était donc un penseur, il a développé une pensée qui s'est appuyée à la fois d'ailleurs sur l'héritage des traditions philosophiques grecques, arabes et persanes, hein, à travers notamment les commentateurs d'Aristote, hein, que furent Avicenne et Molla Sadra au XVIIe siècle, et donc à la fois sur ce que lui, Ostade Lehi, a défini un peu comme la quintessence des traditions religieuses, des différentes traditions religieuses monothéistes. Et à partir de là, il a construit une vision personnelle du perfectionnement humain, perfectionnement éthique et spirituel. Donc ça, c'est un autre aspect de sa personnalité. Et puis, il y a un troisième aspect très éminent, c'est qu'il était un musicien reconnu comme exceptionnel. Dès l'âge de 9 ans, il a été considéré comme un grand maître d'un instrument traditionnel persan, kurdo-persan, qui s'appelle le tambour, qui n'est pas un instrument de percussion, comme on pourrait le croire, mais qui est un luth, originellement à deux cordes. Et il, à partir d'un répertoire assez rudimentaire et disséminé d'airs traditionnels, eh bien, il a récolté ce répertoire et il a construit dessus un véritable art savant, très personnel et extrêmement, je dirais, puissant d'un point de vue de son effet. Maurice Béjart, qu'il a rencontré, disait de lui que c'était le plus grand musicien qu'il avait rencontré. Donc, vous voyez, quand je dis inclassable, c'est voilà, magistrat, penseur, musicien.
Sage.
Un sage, sans doute, je crois, en tout cas, dans la définition qu'en a donnée
Bernard Bourgeois.
Bourgeois.
Si vous voulez des informations sur le programme de ce colloque organisé par la Fondation Ostade Lehi, bien je vous conseille de taper sur le site internet de la fondation www.fondationostadelehi en un seul mot. Ça s'écrit comme ça se prononce. Canal Académie qui est partenaire avec le supplément du journal Le Monde des Religions retransmettra la majorité des interventions. Merci à vous, Monsieur Bourgeois, de nous avoir éclairé sur la sagesse. J'espère qu'au moins nous en aurons acquis un tout petit grain de plus. Merci à vous, Marc Piévic.
Avec plaisir.
Et à bientôt pour une autre émission.